France Inter.
Psychologue clinicienne, spécialiste du trauma, née à Beyrouth, enseignante, docteur en psychopathologie et formatrice des psychologues et personnels soignants de l'ONU, Naila Chidiac est aussi poétesse. La guerre civile dans son pays natal fait faire à sa famille de multiples allers-retours entre Londres et Beyrouth, mais c'est à Paris que Naila Chidiac s'installe et étudie la psychologie à une époque où le champ traumatique n'est pas encore un sujet d'étude. Elle se spécialise donc d'abord dans les névroses infantiles avant de s'adonner pleinement à son intérêt principal. Dès 1997, elle fonde des ateliers d'écriture thérapeutique pour adultes à Sainte-Anne, hôpital qu'elle quitte en 2010 pour ouvrir son propre cabinet. Auteur de l'ouvrage de référence destiné aux professionnels Ateliers d'écriture thérapeutique aux éditions Elsevier Masson et de l'essai Les bienfaits de l'écriture, les bienfaits des mots chez Odile Jacob, elle vient de faire paraître chez le même éditeur L'écriture qui guérit, traumatisme de guerre et littérature. Dedans, elle tente de comprendre le besoin impérieux pour certains d'écrire en temps de guerre et les effets que l'action a sur les psychiques. À travers l'analyse de carnets de guerre, journaux intimes, correspondances de soldats ou réflexions d'artistes et intellectuels ayant tous connu les conflits armés, elle propose des pistes thérapeutiques pouvant être utiles à tous. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Naila Chidiac.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
Oh là là, il y en a tellement. Savoir que mon autrice adorée nigérienne, j'arrive pas à dire son nom, a sorti son livre et que je vais pouvoir enfin commencer à le lire. Voilà.
Est-ce que c'est Chimamanda ?
Oui,
évidemment.
Chimamanda Ngozi Adichie.
Vous êtes psychologue clinicienne depuis plus de 30 ans. Avez-vous noté une évolution des psychés ou les soucis sont toujours les mêmes ?
C'est une question merveilleuse parce que elle reflète un petit peu le fil conducteur qui est celui de la pensée. En fait, les soucis sont souvent les mêmes. On a plus ou moins plus de guerres, par exemple, en ce moment. Les soucis sont les mêmes, mais la pensée est beaucoup plus interrompue. Et donc, on a du mal à penser, beaucoup plus de mal à penser. Donc, peut-être que certains symptômes peuvent augmenter à cause de cette pensée continuellement interrompue.
Par les écrans, les notifications.
Voilà.
Vous avez été chargée de cours à l'Institut catholique de Paris. Quel est votre rapport à la foi ou au sacré ou à la transcendance de façon plus large ?
Très intéressante cette question quand on fait le lien avec le traumatisme psychique. Les patients qui ont la foi, quelle qu'elle soit, ça me rassure toujours parce que je me dis « Ah, ben, je vais avoir un outil qui va m'aider ». Parce qu'effectivement, je repense à une patiente avec une histoire assez incroyable qu'il y a eu dans le métro. Ce qui l'a aidé, c'était d'avoir la foi. Et quand il y a la foi dans le traumatisme psychique, qui est une réponse face à l'indicible, eh bien, quand il y a l'indicible du sacré, il peut nous aider, nous thérapeutes, énormément.
Est-ce que vous, sans vous demander de détails, puisque je sens que vous éludez, je ne veux pas être indiscrète, est-ce que vous avez foi en quelque chose ? Avoir foi en quelque chose, ça peut être en la poésie, ça peut être en Dieu, ça peut être en la nature, en la tendresse humaine.
Oui, absolument.
Vous avez une vie spirituelle.
Absolument, voilà. Puis quand vous parlez de nature, je pense à Spinoza et compagnie. Je pourrais même vous en parler si vous voulez, vous n'êtes pas indiscrète.
Je vous remercie, parce que la psychanalyse, on l'oppose parfois à la transcendance. Or, Freud a bien reçu une lettre avec le sentiment océanique de Romain Rolland.
Alors, la correspondance de Romain Rolland avec Freud est juste sublissime. Et Freud, on ne sait pas beaucoup de choses de Freud. Par exemple, Freud était franc-maçon, ce qu'on sait rarement.
Donc
il y avait le sacré. Il y a le sacré et le profane. Mais effectivement, il y a eu des courants psychanalytiques qui opposaient. Mais il y a eu beaucoup de courants psychanalytiques aussi qui censuraient certaines choses dont on pourrait être choqué aujourd'hui.
Et Jung était très mystique.
Très mystique.
Est-ce qu'on peut tout expliquer psychologiquement, selon vous ?
J'ai envie de vous dire non.
Est-ce que vous vous connaissez bien vous-même ?
Je pense, mais j'espère pas complètement, sinon je vais m'ennuyer.
Est-ce que vous vous acceptez ?
Oui.
Ah, vous dites ça sans hésitation, c'est rare.
Oui, je bavarde souvent avec moi-même.
Vous êtes de bonne compagnie ?
Oui, je suis souvent en réunion avec moi-même.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Naila Chidiac, vous êtes psychologue clinicienne spécialiste du trauma. En 75, la guerre civile a éclaté au Liban. Votre famille a fait des allers-retours entre Londres et Beyrouth. Est-ce que votre intérêt pour le traumatisme est né de cela ?
Très sincèrement, je ne l'ai su que des années plus tard. Pas du tout au moment où j'ai choisi de m'occuper du traumatisme psychique, mais pas du tout. J'ai plus fait ce choix parce que j'aimais ce qui bougeait. Et à l'époque, c'était au moment de la création des CUMP, des cellules d'urgence médico-psychologique, avec Feu Louis Croc, qui a été un de mes maîtres. Et j'aimais beaucoup cette psychologie et psychiatrie de l'avant. Voilà. C'est bien après, en étant moi-même en thérapie et en analyse, donc j'ai compris que mon intérêt pour le traumatisme avait effectivement un lien avec mon passé, mais c'était totalement inconscient.
Vous dites d'ailleurs que la guerre, vous la connaissez, mais que vous avez passé votre vie à faire comme si elle et vous étiez étrangères affectivement, mais intimes, intellectuellement. Et ça y est, avec votre dernier ouvrage, vous vous y êtes enfin plongé. Alors que dans vos poèmes, vous aviez remarqué qu'un thème récurrent, c'était la guerre.
Oui, d'ailleurs, mon éditeur me disait « Est-ce que vous pouvez arrêter de nous parler de la guerre et de l'amour ?» J'ai dit « À quoi d'autre ?»
Bah oui, il y a quoi d'autre.
Mais oui, je ne l'avais jamais vraiment confronté de cette manière-là. Quand on écrit de la poésie, il y a une fulgurance, vous êtes dans un saisissement. Alors que là, il fallait vraiment que chaque fois que je prenais un des auteurs de l'abécédaire, que je me permette de penser avec lui.
Avant de pouvoir vous plonger dans le champ traumatique qui n'était pas encore très étudié quand vous vous êtes installée à Paris à 18 ans et inscrite à l'université Paris Descartes, vous avez étudié les névroses infantiles.
En fait, c'était toute la psychologie de l'enfant dans le but d'être psychologue pour enfants, ce que je n'ai pas pu être par grande sensibilité.
C'était trop difficile d'avoir des patients aussi jeunes.
Oui.
Vous avez fait une thèse sur les troubles cognitifs chez l'élève épileptique.
Absolument.
Vous avez eu un diplôme de victimologie générale à l'American University Washington College of Law. C'est toujours chic de dire des mots en anglais. Est-ce que vous avez noté une différence dans la façon de traiter la psychologie aux États-Unis et en France ?
Ça, c'était en 97, donc ça a beaucoup changé depuis. Oui, on a souvent un retard par rapport à eux dans certaines méthodes et dans d'autres, la pensée européenne, j'ai envie d'élargir à l'Europe, et beaucoup plus, j'ai envie de vous dire, plus posée d'une certaine manière. Si on reste dans le traumatisme, les Américains ont posé le diagnostic de PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, ESPT, état de stress post-traumatique, après la guerre du Vietnam, alors qu'en 1888, me semble-t-il, ou 80, Hermann Oppenheim a parlé de névrose traumatique.
Donc, vous préférez, d'ailleurs...
Je préfère le terme de névrose traumatique ou de psychotrauma, qui laisse, qui est plus précis.
En 97, vous avez fondé à Sainte-Anne des ateliers d'écriture thérapeutique pour adultes. Il y avait déjà plusieurs ateliers de médiation artistique, mais pas d'écriture. Oui. Est-ce que l'expérience a été rapidement probante ?
Ça a été juste magique, vraiment, même si c'est pas un terme très psy de parler de magie, mais il y a quelque chose de très très beau et de très évident. On va enlever le mot magie, on va parler d'une certaine évidence. Et puis il y a aussi la force du groupe, c'est-à-dire que ce qui est très intéressant, ce n'est pas seulement la médiation elle-même, mais aussi l'effet du groupe qui était fabuleux.
Quels exercices faites-vous dans un atelier d'écriture ? Par exemple, si vous deviez donner une consigne aux auditeurs, là ?
Alors là, je suis donc dans les France Inter, entourée de rouge. Donc j'aurais envie de vous demander de faire en 30 minutes un haïku, petit poème japonais de 5, 7, 5 syllabes avec comme titre « Rouge et blanc ».
Rouge et blanc comme et le drapeau de la Pologne.
Voilà, et vous avez uniquement 15 minutes pour le faire.
Ah bon, là, mais c'était 30, là, vous êtes dur en affaires.
Ah bah oui, Eva, vous êtes là.
Non, pas du tout, c'est une illusion. Alors, vous utilisez les haïkus, parfois les exercices à la Georges Perec, je me souviens, et les tautogrammes.
Oui.
Qu'est-ce que c'est qu'un tautogramme ?
C'est un poème ou un texte, mais plus précisément un poème qui commence avec la même lettre. Par exemple, la lettre O, et ils doivent décliner un poème qui commence par la lettre O. C'est un petit peu comme les acrostiches. En fait, tous les jeux oulipiens, ouvroirs littéraires potentiels, sont une mine d'or pour les ateliers d'écriture, qu'ils soient créatifs ou thérapeutiques. Mais mes ateliers sont des ateliers thérapeutiques.
Et vous tenez à ce qu'on écrive à la main ?
Oui,
pourquoi?
Absolument. Parce qu'il y a un lien entre le corps et la psyché, ou le cerveau, on l'appelle. Voilà, et il y a cet engagement qui est très important, d'une communion presque, entre ce moment de réflexion qui peut être la tête en l'air dans une certaine forme de verticalité, et le moment où on se pose et on se penche sur ce papier, où on pose et on couche sur cette horizontalité une pensée. Il y a cette rature, on va rayer et voir ce qu'on a rayé, barrer, ce gribouillage qui est nécessaire. Ça me fait penser au squiggle de Winnicott, où à partir de gribouillage va émerger quelque chose, un mot, une phrase, une pensée.
D'ailleurs, vous écrivez dans L'écriture qui guérit qu'on oublie souvent que l'écriture est un processus physique.
Oui, absolument. On laboure la terre, on gratte, on écrit. Et écrire, du mot scriber, c'est gratter, faire des rayures.
Après, chaque participant lit à voix haute son texte. Il n'y a pas de honte à ce moment-là?
C'est une remarque très importante. J'avais instauré le système des jokers. Donc, une fois par an, vous pouvez ne pas écrire. Et un jour, quelqu'un me dit, mais moi, je ne veux pas le joker écriture, je voudrais le joker lecture. Et étonnamment, en 17 ans, il y a eu des jokers lecture, mais pas de joker écriture.
L'écriture permet de restaurer le moi effracté, c'est un mot que vous employez, très beau, effracté par le trauma, et donc de participer à une reconstruction identitaire. Il y a quelque chose qui revient souvent d'ailleurs quand vous en parlez, c'est la notion de lien, de lier.
Absolument. Il y a l'effraction du moi comme un morcellement. Souvent on me dit je suis partout et nulle part, ou alors je suis là-bas, encore dans le trauma, et pas ici. Donc il y a cette notion de rassembler ce qui est éparpillé, qui se fait avec l'écriture. Mais il y a aussi cette notion de lien de la pensée, comme je vous disais tout à l'heure. On pense moins, et quand il y a, on a moins le temps de penser, et quand il y a un trauma, la pensée est trouée. On parle soit de pensée gelée, figée, soit de pensée trouée. Il y en a qui pensent même qu'ils ont des troubles de la mémoire importants, alors que ce n'est pas un trouble médical, si vous voulez, mais c'est juste l'attention qui n'arrive pas à se poser. Et l'écriture, c'est ça, c'est un lien, c'est un tissage. J'ai envie de vous citer Jean Cayrol, qui a vécu dans les camps et qui disait « les mots sont des habitations, sont des demeures et on doit les rendre habitables ».
C'est magnifique.
Le traumatisme, c'est ce qui est mis en branle, disons, à l'intérieur de l'intéressé. Ce que j'ai appelé une fois dans un article, c'est le traumatisme en action, hein, en acte. Et ça rejoue un peu une notion très ancienne en psychanalyse, du corps étranger interne. Et les patients, d'ailleurs, le disent immédiatement. Ils vivent ça comme une espèce de, plus qu'un cancer, une espèce de puissance démoniaque qui les transforme totalement et qui n'arrête pas.
C'est Claude Barrois, psychiatre, psychanalyste, ancien chef de service à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris, qu'on entend sur France Culture en 95. Il a collaboré en 2015 avec vous, Naïla Chidiac, pour l'écriture d'un article intitulé « Narration et mémoire, du survivant à l'écrivain » dans la revue Annales médico-psychologique. Est-ce que vous pourriez dire un mot sur lui, ainsi que sur le psychiatre militaire spécialiste des névroses de guerre, Louis Croc?
Bien sûr. Alors là, vous citez mes deux maîtres. Celui de l'action, qui était feu Louis Croc, et celui de la pensée, qui est toujours le professeur Claude Barrois, que j'ai eu la chance de rencontrer grâce au professeur Louis Croc, suite aux affaires de, malheureusement, du drame, de la tragédie du tunnel du Mont-Blanc. Il fallait faire des expertises judiciaires, et en fait, pour être expert judiciaire, vous devez faire des expertises, donc c'est comme ça que j'ai appris à faire des expertises judiciaires. Et le général Croc m'a dit, ben, allez avec le général Barrois. Et Claude Barrois, qui a écrit Névrose traumatique, Le soldat traumatisé, donc des ouvrages que j'avais lus. On avait tous à l'époque lu et étudié Claude Barrois. Mais pouvoir apprendre à faire des expertises judiciaires avec Claude Barrois, eh bien là, j'avais vraiment... j'avais tout gagné. Voilà.
Vous êtes docteur en psychopathologie et vous formez des psychologues et des personnels soignants de l'ONU. Comment collaborez-vous avec eux ?
par visio, maintenant beaucoup moins, mais à un moment donné, on se retrouvait, c'est-à-dire que l'ONU organisait des séminaires ou des sessions, on en a fait à Paris, on en a fait dans certains pays, avec aussi le général Kroc, et donc on faisait cela dépendait des formats, soit c'était des formats de 3-4 jours, soit des formats d'une semaine, et on se déplaçait chacun avec nos méthodes, et voilà, ça se passait comme ça.
Et vos missions auprès de victimes de guerre ?
Alors c'est soit je me déplace, à l'époque je me déplaçais, maintenant j'ai le privilège de l'âge, je ne me déplace plus. Il y a aussi cette technologie qui fait que j'ai des patients que je n'ai jamais vus en réel, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, bien sûr, il n'y a rien de mieux que le contact réel, mais ça fonctionne très bien.
Chers auditeurs, c'est enfin Paris qui vous parle. C'est Paris qui vient d'arracher son bâillon, qui retrouve sa liberté. Et pour Paris, la liberté, c'est la vie. Dans quelques jours, demain peut-être, la France délivrée sera redevenue ce qu'elle n'a jamais cessé d'être pour ceux qui lui gardaient intact leur amour, la plus belle, la plus douce, la plus profonde et la plus légère des patries, notre patrie.
Naïla Chidiac, la double passion psychologie et littérature qui s'est ancrée en vous eut lieu lors d'un exposé sur le surréalisme. Vous avez découvert Sigmund Freud et au même moment Paul Éluard, qu'on entend le 1er août 1944 sur la RTF.
Eugène Grindel, de son vrai nom. Et effectivement, j'avais un exposé à faire par un professeur français basé au Liban, qui est toujours vivant, Jean-Claude Morin, et qui avait dit carte blanche, un exposé sur le surréalisme. Je découvre l'inconscient avec Freud et en même temps le surréalisme avec Paul Éluard. Et là, c'est un feu d'artifice de liberté.
Paul Éluard, auteur des poèmes pour la paix, puisqu'il a été infirmier militaire.
Tout à fait.
Mais a arrêté pour raison de santé.
Oui.
En 14. Alors, vous avez étudié différents témoignages d'écrivains qui ont frôlé la mort au cours des guerres du XXe siècle et on en parle dans un instant.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Naïla Chidiac, vous publiez l'essai « L'écriture qui guérit traumatisme de guerre et littérature ». Comment vous êtes-vous documentée pour cet ouvrage passionnant et si dense et riche en citations, en références, en extraits littéraires, en pensées ?
Merci pour ce que vous dites. Alors, il faut savoir, donc je travaille dans le domaine du traumatisme depuis des années et la lecture est ma passion. Et j'adore les carnets et les post-it et les stylos. Et donc, si vous voulez, la première partie qui est la partie vraiment essai avant de parler des auteurs, c'est 30 ans dans un placard. Voilà, donc il fallait sortir ce qu'il y avait, mettre de l'ordre et ranger tous ces petits bouts de papier, toutes ces citations qui m'ont nourrie. Et puis tous les cas cliniques que j'ai accumulés. Et puis l'autre partie qui est la partie des auteurs, c'est ma passion personnelle où aussi j'avais pris plein de petites notes. Donc il fallait faire un rassemblement.
Un lien à nouveau.
Exactement, un tissage, un grand puzzle.
Vous parlez d'une chose très intéressante puisque vous dites que l'écriture n'est pas une panacée, qu'elle peut être très utile mais parfois dangereuse. Et vous parlez de trois étapes, écriture, élaboration et dépassement. Et je vous laisse expliquer en quoi ça consiste.
Tout à fait. Il y a cette première nécessité impérieuse quand les gens ont vraiment besoin d'écrire, c'est ce qu'on peut appeler l'écriture cathartique. C'est vraiment l'abréaction, ça sort, je crache tout ce qu'il y a et ça fait beaucoup de bien. Mais si on reste dans cette écriture en permanence, il y a une répétition qui peut devenir douloureuse.
Et le trauma est répétition, comme vous l'écrivez.
Et le trauma est un des grands symptômes du trauma, est effectivement la répétition. Donc ça peut être douloureux. En revanche, il ne faut pas oublier, et là je cite Duras, répéter, ce n'est pas ressasser. Il faut répéter dans la littérature. Duras, elle parle beaucoup de l'écriture et de la réécriture qui est nécessaire. Il ne faut pas oublier que l'écriture thérapeutique, elle vise ce dépassement. En revanche, ce que j'ai remarqué, et là, je fais référence à Semprin, mais à tous les autres, chacun a sa temporalité. Il ne faut pas brusquer. Si quelqu'un a besoin de continuer à répéter la même chose, eh bien, on le laisse, mais on lui fait d'autres propositions, d'autres formes. Je vous ai parlé de dialogue tout à l'heure. On peut proposer un incipit, on peut proposer un conte, juste pour essayer d'amener un assouplissement psychique, pour arriver à la deuxième étape, qui est l'élaboration. Et la troisième, qui est le dépassement, c'est-à-dire pouvoir écrire autre chose que son trauma, mais aussi son trauma. Le « ou », c'est pas « ou », c'est « et ». Je peux écrire mon trauma et autre chose.
Et quand on écrit de la fiction, c'est souvent bon signe, c'est qu'on a pu dépasser.
Tout à fait, c'est qu'on peut passer au « et ». Et la vie, c'est le « et ».
Vous tenez aussi, pour parler d'un autre ET, à la nécessité de lire et d'écrire. Et vous dites que quand l'écriture peut être dangereuse, vous introduisez de la poésie.
Absolument. La poésie peut être à tout moment, parce que je m'occupe toujours de la pensée. Si la pensée est figée ou si elle est dans une boucle répétitive ou dans une douleur très profonde, c'est difficile de dire à quelqu'un en grande souffrance psychique « écrivez-moi un conte ». Un conte nécessite un début, un milieu, une fin, des tours de magie presque pour faire disparaître le conflit, il n'y a pas de morale, il y a tout ça à savoir. C'est rendre encore plus de douleur à la personne. Alors que si vous dites « écrivez un quatrain », 4 lignes en 30 minutes, c'est faisable. Et là, vous introduisez, vous injectez de la poésie qui est en fait un monde sensoriel immense.
Quelle est l'action de l'écriture sur le cerveau ? Vous écrivez que déjà, il y a un assouplissement psychique.
Je vise cet assouplissement psychique en proposant effectivement des consignes différentes avec des formes différentes. Il y a le fond, mais il y a surtout la forme. D'ailleurs, je ne vais jamais trouver que quelqu'un va mieux parce que son sujet est plus joyeux. J'observe la forme. Vous voyez, par exemple, le silence chez Pérec est très flagrant de quelque chose de l'ordre du traumatisme. Je ne vais pas me permettre de poser un diagnostic, mais le silence peut se voir dans la forme. Donc quelqu'un pourrait me parler de choses très joyeuses si sa forme d'écriture que je suis, au sens suivre depuis un certain temps, est toujours aussi effractée, sans aucun lien, sans aucun tissage. Pour moi, c'est pas, je ne me dis pas « Ah, il va mieux ».
Alors, il y a un passage qui est absolument stupéfiant dans votre livre. C'est qu'à un certain moment, vous dites... Moi qui ai vécu à Bourenval, 30 ans après, je ne suis pas sûr de ne pas avoir rêvé. Je ne suis pas sûr finalement de mes souvenirs. Alors que j'ai l'impression que lorsque je pense au goulag, j'ai l'impression qu'effectivement j'y ai été. Ça paraît stupéfiant, ça.
Non, si vous voyez les souvenirs de toute une série d'écrivains qui ont été déportés, vous voyez que ce sentiment-là est absolument identique. Dans les lettres, le journal de Kuznetsov, le journal d'un condamné à mort, qui sort d'un goulag beaucoup plus récent, puisqu'il a été libéré il y a même pas un an d'un camp brejnevien, vous trouverez la même idée. L'idée que, finalement, c'est peut-être un rêve. Dans les livres d'un Italien qui a écrit 2 livres superbes sur la déportation en Allemagne, qui s'appelle Primo Levi, vous trouverez exactement la même idée. Et même Adorno, qui est un philosophe qui n'a jamais été déporté, dans le dernier chapitre de sa dialectique négative, il parle, ce qu'il appelle d'ailleurs après Auschwitz, il parle de ce sentiment-là, comme un sentiment qu'il a construit comme un concept, parce que c'est une chose possible. Je crois que c'est tout à fait normal de ne pas savoir quelle est la vie réelle, celle du camp ou celle d'après et d'avant.
Georges Semprin, qu'on entend dans Apostrophe de Pivot en 1980, Naila Chidiac, vous le citez dans votre ouvrage, s'opposant à Wittgenstein et affirmant « ce dont on ne peut parler, c'est ce qu'il ne faut pas taire ».
Absolument. Il a essayé de se taire, il a essayé de faire comme si ça n'avait pas existé pendant 15 ans. Il le dit dans son livre « L'écriture ou la vie », pendant 15 ans j'ai essayé de faire comme s'il n'y avait rien eu. Il a écrit « Jusqu'à la porte du camp ». Il a écrit ce qui se passait après la porte du camp, mais il n'arrivait pas à écrire ce qui se passait à l'intérieur. Et il le dit d'une manière juste sublime, « Si j'écrivais, je mourrais, mais si je n'écrivais pas, je mourrais aussi ». Et il lui a fallu 15 ans pour y arriver.
Et il y en a qui écrivent et qui meurent quand même, vous le soulignez. Primo Levi s'est suicidé, Semprin non. Vous soulevez qu'avec Werther, Goethe a exorcisé la tentation du suicide. Kleist n'y est pas arrivé. Non. Écrire ne suffit pas, mais soulage toujours.
En tout cas, écrire est impérieux. Ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire, j'ai eu beaucoup de personnes autant que ce soit les écrivains dont j'ai lu les journaux que les patients qui disaient « mais je ne savais pas que je voulais écrire, je n'ai pas pu faire autre chose qu'écrire, graver, écrire, laisser une trace ».
Dans votre ouvrage, vous parlez de personnes qui parfois ont décidé de rester dans les zones en conflit, notamment une certaine Loulou, vous avez changé les noms, qui utilise le joker de la guerre, je fais exprès de dire joker parce que c'est ce qui est utilisé par elle, pour ne pas écrire. Et vous lui répondez, Apollinaire écrivait des poèmes en pleine guerre dans les tranchées.
C'est vrai. C'est absolument vrai. Sur ses boîtes de cigarettes, il écrivait... plein de poésie, et puis n'oubliez pas les très belles lettres qu'il y a eu, qui ont été écrites dans les tranchées, des poilus, on écrit de partout.
Vous recommandez des lectures dans ce livre, notamment « Considérations actuelles sur la guerre et la mort » de Freud, « Pourquoi la guerre, l'échange entre Freud et Einstein » et de « Book at War » de l'historien Andrew Pettigrew. Mm-hmm. Duquel voulez-vous parler ?
J'ai envie de vous parler de Freud parce que oui. C'est celui que... voilà. Mais le livre aussi de Pettigrew était très 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 bien. Tous les livres que je cite sont d'ailleurs assez excellents et ils sont tellement nourrissants. Freud était désespéré. Parce que, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il a changé son rapport, si vous voulez, à la psychanalyse à cause de l'horreur absolue qu'il a rencontrée et à laquelle il a été confronté. Et il me semble que malheureusement, quand on lit toutes les correspondances qu'il a eues, que ce soit avec Romain Rolland, avec Zweig ou avec d'autres, on est dans des périodes qui rappellent significativement ce genre de moments. Et on se dit, mais... il est où finalement le progrès de la pensée. Voilà. Donc ce livre, mon ouvrage, pousse à penser et à lire en fait, surtout à lire. Lisons les anciens et les actuels aussi.
Oui, vous dites d'ailleurs que la littérature a joué un rôle essentiel en façonnant la perception des conflits.
Absolument.
Donc elle a une vraie puissance.
Elle a une puissance. Alors malheureusement, elle peut avoir une puissance positive, comme elle peut avoir une puissance très négative. La censure est quelque chose de tragique, de dramatique. Je le cite à un moment donné dans le livre où on dit faites attention à la propagande. Il y a des pays où on a enlevé des livres. Je parle de la Deuxième Guerre mondiale. Et on faisait mettre en avant d'autres ouvrages pour, en fait, changer la cognition de la population, changer la pensée de la population.
On va écouter votre choix musical et c'est un choix de paix.
Satisfied. True love, I know. stand by my side. Jamming. I wanna jam it with you.
Jamming de Bob Marley dans la 20e heure sur France Inter. C'est votre choix musical, Naila Chidiac.
C'est un choix musical honnête. Ça ne veut pas dire que je n'écoute que Bob Marley, mais Bob Marley m'accompagne depuis l'âge de 15 ans et je l'écoute tous les jours, cette chanson, peut-être 5, 6 à 10 fois par jour, en fonction de la journée. C'est ma vitamine C.
Alors, je reviens à votre livre « L'écriture qui guérit, traumatisme de guerre et littérature » dans lequel ne figure pas Bob Marley. Mais c'est normal, puisque ce sont souvent des gens qui ont pris de gros risques et qui ont été traumatisés par des conflits armés. Et j'aimerais bien qu'on passe en revue quelques-uns des auteurs que vous évoquez dans ce livre. Notamment, le journal intime d'une fillette ukrainienne de 12 ans, Yeva Skalieska.
Oui, la jeune Yeva, qui, aux dernières nouvelles, est en Irlande et elle va très bien. Son livre est très, très beau. Même la forme du livre, tout est magnifique. C'était très touchant parce que je l'ai lu pendant l'écriture de cet ouvrage. Et c'est à ce moment-là, je pense, où je dis que le réel s'infiltre pendant l'écriture. C'est très difficile. Il y a la guerre au Moyen-Orient, il y a la jeune Yeva. Et voilà, elle croque, en fait. Elle croque la guerre. Elle croque les bombardements, c'est-à-dire au lieu de les dessiner par un croquis, elle vous en parle, elle parle des SMS. Donc c'est vraiment du direct, j'ai envie de dire, et c'est très touchant et c'est très bien écrit.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers des paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
1944, Germaine Sablon interprète le chant des partisans, écrit en 1943 par Joseph Kessel et Maurice Druon. L'écrivain Joseph Kessel était grand reporter. Il a couvert la guerre d'Espagne et la Seconde Guerre mondiale avant de rejoindre la Résistance. Il a laissé aussi de sublimes textes et il figure dans votre abécédaire, dans l'écriture qui guérit, traumatisme de guerre et littérature, Naila Chidiac.
Oui, c'était très difficile de faire un choix d'auteur, mais je ne pouvais pas ne pas parler de Kessel. Bien sûr, sa vie, son œuvre entièrement, mais je pense avoir été bouleversée par Les mains du miracle. Voilà, il faut que je sois bouleversée, c'est-à-dire dans ces choix que j'ai eu à faire, des choix cornéliens, s'il n'y avait pas eu un ouvrage qui m'avait bouleversée, eh bien il n'allait pas figurer dedans.
Alors, est-ce que vous pourriez dire un mot sur un ouvrage bouleversant? C'est l'ouvrage de Chapsky, le premier qui a été publié par les éditions Noir sur Blanc, c'est Proust contre la déchéance.
Oui, encore une fois, l'objet est très très beau, il est tout fin, tout petit, il y a quelques croquis. Et c'est terrible de savoir que, voilà, il y avait des prisonniers au goulag, dans le froid, qui se réunissaient. C'était dangereux de se réunir parce qu'ils n'avaient pas le droit de se réunir dans ce réfectoire. Certains ont été tués parce qu'ils ont été attrapés allant à cette réunion. Et qu'est-ce qu'on faisait dans cette réunion? Eh bien, on parlait de Proust. On récitait Proust pour ceux qui s'en souvenaient. Et le titre est juste sublime, Proust contre la déchéance de l'esprit et du corps bien évidemment, mais surtout de l'esprit. Et c'est pour ça que la littérature est un paravent contre la déchéance de l'esprit.
Je songe à cette armée de fuyards, aux appétits de dictature, que reverront peut-être au pouvoir dans cet oublieux pays ceux qui survivront à ce temps d'algèbre damné. Amer avenir, balle parmi les rosiers.
René Char lit un poème sur la RTS en 1967. Naila Chidiac, un mot sur ces feuillets d'hypnose, rédigés entre 1943 et 1944.
Exactement. La grande liberté de René Char était effectivement, et je le cite beaucoup, et je vais encore une fois répéter cette phrase, il disait « Les mots savent de nous ce que nous ne savons pas encore ». Alors c'est très beau, c'est poétique, c'est René Char, les feuilles d'hypnose, il n'y a rien. Voilà, ça fait partie de la grande littérature, poésie française, mais d'un point de vue thérapeutique, qui est après tout mon métier, quand on fait écrire dans un atelier d'écriture thérapeutique sous contrainte de consignes et de temps, on ne vise pas l'objet littéraire, je ne vise pas la réussite d'un texte ou pas. Ce qu'on vise, c'est une mise en abîme de cadre pour que effectivement émerge une pensée à laquelle on ne s'attendait pas, ou des mots au détour d'une autre pensée. Et c'est ça, en fait, que veut dire René Char. Les mots savent de nous ce que nous ne savons pas encore. Donc écrivons, et puis on va voir, on va découvrir.
Steven Spielberg nous montre l'histoire d'une des guerres les plus folles que le monde ait connues. Empire du Soleil. Me laisse pas tomber, petit. Tu es un Américain, maintenant. Un jeune garçon qui avait le courage d'un homme. Un petit prisonnier dont l'esprit restait libre.
J.G. Ballard, l'auteur de Crash, est né, et ça vous le rappelez dans votre ouvrage, Naïla Shidiak, à Shanghai. Il y a grandi jusqu'à ses 15 ans lorsque les forces de l'armée impériale japonaise envahissent la ville au cours de la Seconde Guerre sino-japonaise, conflit qui s'intègre ensuite dans celui de la Seconde Guerre mondiale, et il est détenu avec sa famille dans un camp de prisonniers pendant plus de 2 ans, ce qu'il raconte dans son livre Empire du Soleil, adapté à l'écran par Spielberg. On a passé un extrait du film. Un mot sur lui, parce que, en fait, quand on connaît cette histoire, on est beaucoup moins surpris par ses livres. Tout et la fait. Violence qu'on peut trouver dedans.
Exactement. Et je le dis dans l'ouvrage, je ne suis pas fan de science-fiction, mais je voulais aussi proposer aux lecteurs des formes différentes. J'adore la poésie, j'adore le théâtre, mais il y a aussi autre chose. Donc c'est pour ça que dans le choix, il y avait aussi le choix de formes différentes. Et en science-fiction, Ballard était un des plus grands, me semble-t-il. Et vous avez raison, j'ai d'ailleurs pu mieux supporter la lecture de ses livres en ayant connu son histoire.
Un mot sur Guéorgui Efron, qui est le fils de la poétesse russe Marina Tsvetaeva, qui, elle, se suicide en 1941, et lui, qui sera fusillé à 19 ans en 1944.
Mm-hmm. Oui, alors je ne savais pas qui était, honnêtement.
Moi non plus, je l'ai découvert grâce à vous.
Je l'ai découvert dans mes recherches, qui étaient assez là depuis tellement d'années, et je tombe en fait sur ce journal qui faisait quand même 719 pages, et je me suis dit, je ne vais pas lire les 719 pages, et en fait, je n'ai pas pu m'arrêter. Pas tellement par la beauté littéraire, mais vous êtes vraiment happé par ce jeune qui vit une adolescence, qui vous raconte une vie normale, le vrai journal intime, voyez-vous, en pleine guerre, en pleine censure, en pleine faim, F-A-I-M, et en pleine peur, au moment où tout s'écroule, où tout se détruit, et qu'est-ce qui reste ? La musique et la littérature.
Vous dites que nulle guerre n'a produit une littérature aussi abondante que la Première Guerre mondiale, et aussi que tenir un journal était une habitude de la bonne société du 19e siècle qui se prolongeait plus longtemps en Russie qu'en Occident.
Oui. Beaucoup plus, peut-être parce qu'ils vivaient autrement ou différemment. Mais en Angleterre aussi, ça s'est resté. Ils ont d'ailleurs une autre appellation qui est le diary.
Oui.
Donc il y a plus un relevé au quotidien que la notion de journal, de journal.
Quel est le test de la page 99 de Ford Madox Ford, auteur du Bon Soldat, qui a coécrit des livres avec Joseph Conrad et qui était un ami d'Hemingway?
Oui, il se promenait beaucoup à Paris chez Gertrude Stein. Il disait que si on veut savoir si un livre est bon, il faut lire la page 99, et si elle vous prend, c'est-à-dire que le livre est bon. C'est étonnant, n'est-ce pas? En général, on fait la quatrième de couverture, le titre, ou même certains disent la première page. Et non, pour lui, c'était 99.
De Vassili Grossman, vous ne recommandez pas Vie et Destin, mais vous recommandez Tout passe.
Alors, je recommande presque tout Grossman, mais j'avoue avoir grandi avec Vie et Destin, et en lisant Tout passe, qui est ressorti dernièrement, et en lisant surtout l'histoire autour de Tout passe, de ce livre que le KGB avait kidnappé. Donc en fait, il y a l'histoire du livre en elle-même qui est une histoire assez saisissante, et puis il y a la notion du pardon qui n'avait pas été évoqué précédemment et qui est évoqué dans Tout passe. Et là, ça interroge énormément sur la notion dont Hannah Arendt a parlé, du bien et du mal, et quid de tout ça.
Il est très difficile de définir le mot absurde. À mon avis, le monde n'est pas absurde à l'intérieur de lui-même. Tout est logique. On a dit par exemple que la mort de Camus était absurde. Elle n'est pas absurde du tout. Une voiture a dérapé, il y a eu un arbre, la voiture s'est écrasée contre l'arbre. C'est tout à fait logique et tout à fait explicable. Mais ce qui me semble absurde, c'est d'exister. C'est l'existence en soi qui me semble non pas absurde, mais invraisemblable, incompréhensible, étonnante.
Eugène Ionesco, en 1960, sur la RTF, il apparaît dans votre abécédaire, Naïla Chidiac.
Oui, tout comme Éluard, découvrir l'absurde, découvrir le surréalisme pour la jeune fille que j'étais à l'époque, était découvrir ce que voulait dire la liberté de penser. Et je les remercie infiniment parce qu'ils m'ont autorisé à penser autrement que dans mes schémas de pensée. Et il me semble que c'est ce que apporte aussi la littérature, c'est de vous permettre de penser autrement. Et d'un point de vue thérapeutique, si vous arrivez à penser autrement, peut-être que vous pouvez commencer à penser avec plaisir lorsque cette notion-là vous est totalement inconnue.
Il nous reste quelques secondes et je ne peux pas évoquer tous les noms que j'avais notés en vous lisant, Naïla Chidiac, mais est-ce que vous pourriez dire un mot sur un nom très peu connu qui a pourtant inventé une héroïne très connue, c'est Astrid Lindgren.
Oui, alors j'étais moi-même très surprise de quand je faisais mes recherches sur qui a écrit pendant la guerre, et plutôt précisément des journaux. J'étais très curieuse de voir. Je découvre Astrid Lindgren et je me dis, mais c'est qui celle-là ? Très connue dans son pays et que je ne connaissais pas. Donc je lis, je fais des recherches. Effectivement, ses journaux sont passionnants, sa vie est passionnante et quelle ne fut ma surprise de savoir que c'était elle, la maman, la créatrice de Fifi Bras d'Acier, qui a eu besoin pour ses propres enfants, avant même de devenir auteur connu et reconnu dans son pays, elle a eu besoin pour ses enfants, pour leur donner de la force, d'inventer un personnage qui était fort, qui était une petite fille avec des taches de rousseur et deux grandes couettes avec des tresses, et qui était invincible. Ce qui a beaucoup aidé tous ses enfants pendant la guerre à pouvoir penser que quelque chose était possible de l'ordre de l'espérance.
Merci Naïla Chidiac.
Merci à vous.
Votre essai « L'écriture qui guérit, traumatisme de guerre et littérature » est paru aux éditions Odile Jacob. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Betty Algret et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Laurent Baudouin.